Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et le deuxième est fantastique alors qu'on avait le match sur la. Sur le match,
vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 meilleurs.
Peut-être ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais.
RMC, l'after foot.
Karine Galli. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After Foot, 2 heures de bonheur. On va évidemment revenir sur les résultats de Ligue 2, vous le savez, c'est le bonheur pour le club du Mans qui va retrouver la Ligue 1, même si le match actuellement est arrêté à Bastia. Les Manceaux mènent 2-0. On parlera également de Saint-Étienne qui va jouer les barrages. Cette soirée de Ligue 2, mais aussi l'actualité de la Ligue 1, on va la traiter avec Walid Acherchour et Maxime Chano. Ça va les gars?
Salut Père.
Salut Karine, salut Walid, salut à tous.
Karine, salut Maxime.
Messieurs, on va évidemment revenir sur la Ligue 2. C'était la 34e journée avec donc l'information du soir, c'est que Le Mans est en Ligue 1. Ils sont en train de gagner 2-0 face à Bastia, mais le match a été arrêté. Julien Pernucci va tout nous raconter parce qu'il y a les larmes de bonheur des Manceaux, mais il y a évidemment la colère aussi du côté des Corses parce que c'est une défaite synonyme de relégation en 3e division. Bonsoir Julien, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé parce que le match n'est officiellement pas terminé?
C'est ça exactement, même si tous les joueurs sont en train de rentrer au vestiaire, y compris les Manceaux qui avaient commencé un peu à s'étreindre et à profiter un peu de cette montée en Ligue 1 16 ans après. En fait, juste après le second but Manceaux de Milan Robin, eh ben, du côté de la tribune ouest qui était à l'opposé de l'action, il y a eu des fumigènes qui ont commencé à être lancés dans la surface mancelle, puis après des pétards. Je le dis de suite pour rassurer tout le monde, il n'y a aucun joueur qui a été touché, tout le monde va bien, il n'y a pas eu de dégâts physiques ou quoi que ce soit. Mais après, il y a eu une quinzaine de fumigènes qui ont été tirés, les joueurs sont allés près du rond central et Rudy Buquet forcément a interrompu la rencontre, l'arbitre de la rencontre qui est toujours en discussion puisque celui-ci ne veut pas reprendre la rencontre alors que les joueurs souhaitent eux que les 30 dernières secondes soient jouées pour qu'on n'en parle plus, que Le Mans soit en Ligue 1, que Bastia soit en Ligue 3. Mais voilà, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise parce qu'il reste vraiment très très peu de temps de jeu, le résultat il est fait, voilà. Et franchement ce serait bien qu'une décision soit prise même si le public est en train de partir très massivement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Le Mans est en Ligue 1 et Bastia est en Ligue 3 avec la disparition du football corse, des deux premiers échelons du football français pour la première fois depuis 60 ans.
Merci beaucoup Julien, tu restes avec nous encore quelques minutes pour voir l'évolution de la situation. On le rappelle, on vous attend au 32-16 pour réagir avec nous sur cette soirée. Messieurs, Le Mans, on le rappelle, retrouve la Ligue 1 16 ans après l'avoir quitté, 13 ans après sa liquidation judiciaire. C'est absolument exceptionnel, c'est une deuxième montée consécutive. L'an dernier, ils étaient en National, ils seront lors de la reprise en Ligue 1. C'est un travail rendement bien mené. On parlera également du désastre du côté de Bastia, mais on va commencer évidemment par saluer la saison des Manceaux qui est absolument exceptionnelle.
C'est presque triste même pour les Manceaux de ne pas pouvoir célébrer à cause de ce qui est en train de se passer à Furiani. Mais bon, c'est vrai que pour revenir à la saison du Mans, elle est exceptionnelle, back to back, c'est-à-dire National, Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément l'effectif en début de saison, je ne pensais vraiment pas qu'ils seraient en mesure de pouvoir monter en Ligue 1. Et finalement, tu vois, la dynamique a pris. J'ai envie de donner du crédit aussi à l'entraîneur Videra, qui a longtemps été aussi à Furiani, donc il connaît très bien la Corse. Donc valider la montée en Ligue 1 alors qu'il a passé autant de temps en Corse, forcément c'est un message un peu spécial pour lui. Mais très très heureux. Tu sais que moi j'y ai joué, Karine, je fais partie justement de ce groupe qui a vu malheureusement le Mans, le MUC 72 à l'époque, c'était pas encore le Mans FC, descendre de Ligue 1 en Ligue 2. Donc c'est vrai que revoir ce club en Ligue 1 avec tout ce que ça représente dans la région, le nouveau stade qui n'a pas eu encore l'occasion justement de connaître la Ligue 1, je pense que c'est très très bien pour la ville et je suis très très heureux évidemment pour le club de les savoir de retour en Ligue 1.
Walid, c'est une ascension incroyable. On rappelle Thierry Gomez, il a repris le club qui était tombé au plus bas. C'était en octobre 2016. En l'espace de 10 ans, Le Mans va retrouver la Ligue 1 avec, comme le disait effectivement Maxime, ce stade, Marie-Marvin, qui n'avait jamais connu la Ligue 1, alors que c'est un stade pour connaître effectivement l'élite.
Oui, une grande pensée pour les supporters manceaux qui ont mangé leur pain noir pendant tant d'années. Moi, j'ai 32 ans. On a découvert cette Ligue 1 avec la génération des Romaric, des Matsui, des Franchon, des Toulouse de Mello, des Marco Bacha, des Cessignon et j'en passe avec avec ce sponsor loué, tous ces samedis soirs sur Foot Plus ou à écouter RMC sur les multiplex avec cette équipe qui avait marqué de son époque la Ligue 1, les revoir comme ça en Ligue 1 avec un travail de fond incroyable avec un Patrick Vidéra. Moi, on m'en avait parlé dans les divisions inférieures quand il était à Furiani, notamment de son boulot incroyable. Le Mans VGT en National et il les a fait monter de National en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1. C'est un back-to-back extraordinaire. La dernière fois que j'avais vu ça, moi, c'était Strasbourg qui avait fait ça. Il y avait eu aussi Evian Tonon Gaillard, je crois même peut-être Bastia aussi, mais c'est des performances qui sont extraordinaires. En plus, à chaque fois que Patrick Vidéra prend la parole, moi je trouve que son discours est extraordinaire dans le partage, dans la mentalité, dans la générosité qu'il veut inculquer à son équipe. C'est un club aussi qui a donné sa chance à beaucoup beaucoup de joueurs de N2, de N3. Il y a notamment William Arrouz qui jouait avec Kevin Diaz au Lusitano Saint-Maur l'année dernière, où ils ont fait un contrat très très bas pour lui donner sa chance, et il a fait quelques minutes, quelques apparitions, et il termine le match ce soir. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont roulé leur boss dans les échelons inférieurs à l'image de Patrick Vidéra, et les voir en Ligue 1 ce soir par rapport au budget, par rapport à ce qui était attendu sur des gros gros monstres en Ligue 2 type Saint-Etienne, type Reims, ou voire même Montpellier, c'est énorme c'est énorme comme accomplissement.
Ouais, on vous rappelle effectivement un Patrick Vidéra, donc coach du Mans FC depuis mai 2024, très attaché à la Corse, tu l'as dit, parce qu'il a été pendant longtemps le coach d'un club qui est à quelques kilomètres, hein, ouais, justement, Furiani, du stade de Furiani. Ouais. On va retourner avec Julien, parce que là, on voit effectivement que Buquet, l'arbitre, est en train de prendre la parole. Donc, une décision va être prise, ah,
là,
on espère rapidement.
Il faut arrêter, là.
Surtout dans les couloirs, j'ai l'impression, non ?
Mais là, ça fait 20 minutes.
Il faut arrêter d'une manière ou d'une autre. Ouais.
Julien, est-ce qu'il y a une annonce qui est faite au niveau du speaker ?
Il n'y a eu aucune annonce de fête. Aucune annonce de fête. C'est, voilà, le stade est quasiment vide. Voilà, ça, y a tout le monde est parti, mais ouais, c'est vidé, mais il n'y a eu aucune annonce de fête.
Donc, on rappelle que c'est au moment du deuxième but Manceau qu'il y a
c'est
eu
ça,
donc des projectiles
dans les arrêts de jeu,
jetés.
Ouais.
D'accord.
Jeté complètement à l'opposé, effectivement. Voilà, c'était la tribune. Voilà, ils attendent. Alors, visiblement, de ce qu'on me dit, ils attendent que le stade se vide pour faire retomber la pression. Mais les deux équipes sont dans leur vestiaire et l'arbitre est toujours en cellule de crise avec la préfecture, notamment parce qu'il y a des questions, bien entendu, de sécurité publique. Mais le stade s'est vidé.
Après, c'était un peu attendu, hein, quand tu vois un petit peu la saison du Sporting Club de Bastia. On va peut-être y revenir un peu plus tard, Karine, mais évidemment, voilà, ils avaient plus en plus le destin entre leurs mains. Hein. Il fallait absolument gagner et que Laval perde. Pour le coup, Laval a gagné. Donc, dans tous les cas, c'était très, très compliqué pour le Sporting. Mais c'est vrai que c'est vraiment triste pour un club comme le Sporting de descendre en Ligue 3. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est je le répète encore, hein, je réitère mes propos, mais c'est vraiment dommage pour les joueurs du Mans de ne pas pouvoir célébrer, même si c'est toujours un petit peu délicat, hein, de célébrer une montée sur un terrain extérieur. Mais c'est vrai que pour la beauté de la saison, ça aurait été top que le match puisse aller à son bout, en tout cas.
On vous rappelle que c'est l'événement, donc le Mans FC qui retrouve la Ligue 1 16 ans après l'avoir quitté, donc qui fait deux montées de suite, National, Ligue 2 et donc Ligue 1 à venir. Bravo à eux. Les autres résultats importants, c'est évidemment Saint-Etienne qui a étrié Amiens 5-0, mais ça ne suffit pas. Les Verts devront passer par les barrages. Au niveau des barrages, justement, il y a le Red Star qui a fait un but partout face à Montpellier, qui sera en barrage mardi face à Rodez. Et vendredi, les Verts joueront face soit au Red Star, soit face à Rodez. Tout dépend du résultat de ce match-là. Et on rappelle donc que Laval et Bastia sont relégués. Il y aura après, évidemment, les barrages aller-retour contre le 17e de Ligue 1. Mais ça, on attendra évidemment que notre championnat de première division soit terminé.
Ouais, oui. Et pour la petite histoire, Karine, parce que c'est vrai qu'on a mis en avant Le Mans par rapport à ce qui s'est passé sur les 16 dernières années. Moi, je me rappelle la dernière année avant que le club descende en Ligue 2, on avait eu la chance d'avoir une réunion avec l'ancien président, qui s'appelle Henri Legarda, pour les joueurs qui étaient présents. Et Henri Legarda, c'était à le moment de l'inauguration du stade, qui nous avait dit que dans les 5 ans à venir, il aimerait mettre Le Mans FC dans le top 50 européen. Bon, bah, t'as bien compris qu'il y a eu entre temps un petit contre-coup parce que bon, il y a eu cette fameuse descente. Mais comme quoi, tu vois, voilà, je pense qu'il faut justement apprendre un petit peu aussi de ses erreurs. Peut-être que l'ancien président avait vu un peu trop grand. Là, pour l'instant, le projet du Mans a l'air d'être solide. On verra ce que ça va donner. Mais je le répète, je pense que je suis très heureux et je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de personnes de revoir un club mythique comme Le Mans finalement en première division. Et maintenant, à eux de bien structurer leur effectif pour.
C'est fou s'imaginer Le Mans en Ligue 1 l'année prochaine, quoi.
Oui, alors ça avait vraiment coulé, tu l'as dit, Henri Le Garda avait explosé en plein vol.
Ils ont disparu, ce club qui refait surface. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'ils réalisent ce soir. Et franchement, je suis très triste à la place des des supporters parce que bien évidemment que
ouais, bon, c'est, ils vont célébrer ça au Mans,
ouais, ils vont célébrer ça, mais ce soir on aurait quand même vu, ils auraient mérité d'autres images. En plus ils viennent de gagner 2-0 là-bas, ils ont fait le boulot, sincèrement c'est triste à mourir.
Bah, après, messieurs, on va justement retourner voir Julien Pernici qui est notre correspondant à Bastia. Julien, les dernières informations, on le rappelle, donc le match est arrêté, qu'est-ce que tu en sais?
Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles informations, mais justement, pour essayer d'en avoir de nouvelles, moi, ce que je vous propose, c'est de descendre du côté de la zone mixte, de la salle de presse. C'est là que ça va se passer parce qu'il n'y a plus un spectateur dans le stade. Le match, de toute évidence, il ne va pas reprendre.
Non, mais là, il faut faire preuve de pédagogie quand même. Quand tu es arbitre, tu as vu que la sécurité, sur les 3-4 premières minutes, que le stade avait été évacué, il y a un moment, il faut arrêter la mascarade. Quoi. À un moment donné, il faut prendre une décision pédagogique avec une équipe de Bastia qui descend en Ligue 3 et une équipe du Mans qui monte en Ligue.
Il doit arrêter le match, il est fini, on entérine ce score. Merci Julien, tu restes effectivement avec nous et tu descends auprès des acteurs du match. Donc on le rappelle, 13 ans après la liquidation judiciaire, Le Mans avait tout perdu après les envies de folie d'Henri Le Gardin. On rappelle qu'il avait dit même « je veux que mon club un jour joue la Ligue des Champions » et finalement ils étaient tombés au plus bas. Et bien Le Mans est à nouveau au plus haut avec une nouvelle montée en Ligue 1 et une nouvelle saison à venir absolument exceptionnelle. Bravo évidemment à Thierry Gomez, on espère l'avoir avec nous sur RMC. Lui qui a repris le club en octobre 2016 et 10 ans après, eh bien Le Mans retrouve l'élite. Le tour des lives, messieurs, parce qu'il n'y a pas que du foot ce soir, il y a également notamment du rugby. Et pourtant, ça se joue au Vélodrome, c'est un choc entre Toulon et Toulouse. Bonsoir Maxime Tilliette.
Salut Karine, salut Walid, salut Maxime, bonsoir à tous. On se régale au Vélodrome ce soir, c'est pas monnaie courante ces derniers temps. Et les Toulousains viennent de prendre un peu le large à la 50e minute ici, grâce notamment à une pénalité de Romain Ntamack et un essai de Choco Barès. Après d'ailleurs deux belles inspirations au pied de Ntamack puis de Antoine Dupont. Ça fait donc désormais avec 20-34 au tableau d'affichage, deux essais de retard pour les Toulonnais qui avaient causé bien du souci aux Toulousains en première période. Mais là, les Toulousains ont appuyé sur l'accélérateur et mènent donc 34-20 ici au Vélodrome.
Merci beaucoup. On est également en Angleterre avec les mondiaux par équipe. C'est du tennis de table. On va saluer Léna Marjac. La France est opposée à la Chine.
Salut Karine, salut tout le monde. Oui, France-Chine pour cette demi-finale et la France a recollé grâce à Félix Lebrun un partout donc dans cette rencontre. Et c'est au tour du grand frère Alexis, 22 ans, 12e mondial, et bien d'essayer de prendre le large, de prendre l'avantage dans cette demi-finale. Et il vient de remporter le premier set face à Lian Jingkun, 11-3 pour Alexis Lebrun dans ce troisième match. Et on le rappelle, donc un partout entre la Chine et la France dans cette demi-finale.
On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit. Dans quelques instants, on sera avec Mickaël Super Porter Manceau, qui est un homme heureux. Évidemment, Le Mans est de retour en Ligue 1 16 ans après, c'est absolument exceptionnel. On pense également à Clément Brossard, notre reporter qui est dans le train actuellement et qui fait que sauter sur les autres passagers. Calme-toi Clément, il n'y a pas que des supporters Manceau qui font Montpellier-Paris, ils veulent rentrer tranquillement chez eux. On est ensemble jusqu'à minuit, on va revenir donc évidemment sur les enseignements de cette 34e journée de Ligue 2 et puis on parlera de notre Ligue 1 avec Marseille qui fait encore des siennes et notamment Aubameyang qui était écarté du déplacement au Havre. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 22h18 dans le studio Roland Courbis, on est ensemble avec Maxime Chano et Walid Acherchour. 34e journée de Ligue 2, messieurs, un peuple heureux, c'est le peuple du Mans qui est officiellement en Ligue 1 ce soir après son succès face à Bastia 2-0. Alors le match n'est pas officiellement terminé parce qu'il y a eu des incidents en fin de match, mais le Mans mène 2-0, donc c'est synonyme de montée. Deuxième montée consécutive, on rappelle l'an dernier, ils étaient en National, et bien l'an prochain, ils joueront en Ligue 1. Bravo à eux. Des enseignements également importants pour Saint-Etienne. Malgré le carton 5-0 face à Amiens, ils seront donc obligés de passer par les barrages. Le programme, donc mardi, il y a Red Star face à Rodez en barrage. Et le vainqueur de ce match affrontera vendredi les Verts. On rappelle qu'il y avait une ambiance de dingue au stade Geoffroy Guichard et que le match aura lieu à Saint-Etienne vendredi. Laval et Bastia sont relégués. On accueille Mickaël, supporter Manceau, avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Mika.
Bonsoir Karine, bonsoir Walid et bonsoir Maxime.
Salut Mika. Salut
Mika. Mika, est-ce que tu avais déjà connu Le Mans FC en Ligue 1?
Non, en 2003 je travaillais, j'étais dans le sud, je pouvais pas fêter et la précédente non plus en Ligue 1, et là, cette année, c'est magique. J'avais déjà
appelé... Cette année, tu travailles pas?
Comment?
Cette année, tu travailles pas?
Si, cette année, je travaillais. Oui. Mais hier, je suis allé à l'entraînement. Donc j'ai assisté à l'entraînement, j'ai senti les joueurs
magnifique.
Sereins, les coachs sereins. Il y avait un génial engouement. Mais c'est ce que je disais contre Guingamp après le match de la première journée. J'avais pu passer à l'antenne et j'avais dit que c'était magique au Mans. C'est bien, je fais la première et la dernière de la saison. Franchement, je suis heureux. J'ai eu la chance de pouvoir venir pour l'after au Mans avec Gilbert, Daniel, Jean-Louis et Flo. C'était génial. Ils avaient pu RMC avait pu voir comment c'était bien au Mans.
Mais là, Mika, raconte-nous pense... ton émotion, oui. Parce qu'on rappelle, il y a 13 ans, vous étiez mort.
Oui, je sais.
Il dit comme ça, ouais.
Bah, c'est vrai.
Moi, j'ai toujours été là. Ça, ouais, en effet, Karine, mais... j'ai toujours été là, moi. J'ai ouais. toujours été là. Et là, franchement, Maxime, il peut se souvenir d'un joueur qui il a joué, et j'ai une pensée pour lui, c'est Guillaume Loriot.
Ah oui.
Franchement, je le vois à chaque match. Maintenant, il travaille pour la ville. Et il est super heureux. Mais je tenais à rendre hommage à tous les joueurs, tout le staff, tous les gens du Mans, tous les bénévoles, parce que faut pas oublier que sans le bénévolat, on peut pas réussir. Donc tous les présidents, les dirigeants, toutes les personnes, tous les partenaires, je tiens à remercier tous les gens.
Ouais, et puis Le Mans, une ville sympathique, et on l'a dit un peu plus tôt, mais le fait d'avoir le nouveau stade en Ligue 1, parce qu'encore une fois, c'est un superbe stade qui avait rien à faire en Ligue 2.
Ah, c'est magique.
Donc je pense que ça va être top. On sait que c'est une ville qui aime aussi beaucoup le foot, avec des infrastructures qui étaient intéressantes aussi. Je sais pas s'ils ont encore la pince Nardière, mais à l'époque.
Tout à fait.
Voilà, à l'époque, c'était quand même un centre d'entraînement.
Ils ont construit le centre de formation au Clos Fleury. À la place du Clos Fleury, d'accord. Ils sont en train de construire le centre de formation.
D'accord, très bien. À l'époque, c'était quand même un top centre d'entraînement, vraiment digne de du haut de tableau de la Ligue 1. Je me souviens justement quand il y avait le dépôt de bilan, certains clubs de Ligue 1 d'ailleurs étaient venus piocher un petit peu dans les infrastructures du club. Ça avait fait mal d'ailleurs à pas mal de gens, notamment par exemple tout ce qui est le Biodex et compagnie. Donc c'était toutes les machines du club. Il y avait vraiment absolument plus rien au Mans. Et donc c'est vrai que de les revoir aujourd'hui en Ligue 1 avec un potentiel public intéressant, avec justement une saison qui a été quand même exceptionnelle. Parce que je regarde la dernière défaite, il me semble qu'il n'y a eu qu'une défaite quand même depuis le 19 septembre, c'est contre Montpellier. Donc ça fait quand même une saison.
Non, pas Montpellier. Oui, Montpellier, oui, tout à fait.
Montpellier, ouais, je suis en train de regarder, donc c'était une super saison.
Mais il y avait Coupe de France aussi.
Ouais, mais je parle vraiment en termes de Ligue 2.
France,
Donc non, ça a été un super parcours et j'espère que vous en avez profité. Maintenant, en espérant évidemment que le club arrive à bien structurer par rapport à son effectif, parce qu'on sait qu'il y a une grosse différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 de niveau, et éventuellement pérenniser le club en Ligue 1, parce que je pense que c'est la place que mérite Le Mans.
Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec
Mickaël,
nous.
S'il te plaît.
Oui.
Est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que c'est possible d'avoir un t-shirt de l'after des 20 ans, s'il te plaît? Et une photo dédicacée de toi, s'il te plaît.
Écoute, on va faire son maximum. Alors, les t-shirts, on va demander à Gilbert Bribois, parce que je ne sais pas où est la réserve. Peut-être que Walid sait, je ne sais
pas. Non, j'ai pas eu écho.
Karine?
Oui?
Je me souviens au match contre l'Islande, t'étais venu au MM Arena, t'étais venu avec Laura Georges et Xavier Domergue.
Tout à fait, c'est du foot féminin.
Oui, tout à fait. Et je t'avais demandé une photo dédicacée. On avait fait un selfie. Et tu m'avais fait un autographe. Et franchement, je t'avais été très sympa. Et je te remercie beaucoup de ta gentillesse. Et c'est la première fois que j'étais sur RMC. Et je remercie RMC pour votre gentillesse et pour votre disponibilité.
Merci beaucoup, Mika.
Merci, Mika. Écoute, avec plaisir. Et j'ai fait les saisons du Mans, Ligue 2, à Arnaud Cormier et compagnie, Jeff Louis. Je le voyais quand il fermait les yeux, mettait une mine et ça finissait au fond des filets.
Ça a mal terminé pour Jeff Louis. Mais
à un moment, il a eu quand même une période où il était en pleine bourre.
Exactement.
C'était absolument dingue.
C'est un petit peu perdu au standard de Liège.
Ça a duré peu de temps, mais effectivement, il a marqué quelques buts absolument incroyables. Merci Mika d'avoir été avec nous et merci pour tes mots très sympas. On va demander à Gilbert pour le t-shirt, je te promets, parce que moi je ne sais pas où ils sont. Donc ça, je n'ai pas les clés de la réserve, mais on va s'occuper de tout ça. Messieurs, c'est quand même dingue parce qu'en fait, hier, on avait le scénario avec du bonheur du côté de Lens et le désarroi total des Nantais. Et ce soir, on revit exactement la même chose. Bastia tombe en Ligue 3 en et dans le même temps, c'est un bonheur absolu pour les Manceaux. C'est quand même fou. Il n'y a que le foot qui te permet d'avoir des émotions aussi contrastées, des destins croisés comme ça.
Oui, et puis ça acte le fait que le football corse aujourd'hui n'a plus d'équipe en professionnel. Ça c'est quand même terrible pour cette région-là, avec la descente administrative de Ajaccio là, celle de la saison dernière, avec la descente en Ligue 2 et celle de Bastia dans une saison qui a été cataclysmique avec le départ du coach, le départ de Frédéric Antonetti qui était le phare, celui qui avait la vision dans ce club en début de saison. Tout s'est écroulé pour Bastia et c'est vrai que c'est une fin tragique et de les voir en Ligue 3 et de voir une région aussi animé et habité par le foot disparaître de notre championnat, de nos championnats pro, c'est quand même une information importante ce soir.
Et ce qui est paradoxal, parce que on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais quand tu vois les dirigeants corses qui aujourd'hui officient un petit peu en Ligue 1, je pense par exemple à Jean-Louis Lec ou à Negroni à Angers ou même à Lorenzi, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de connaissances dans le football d'origine corse, hein, vraiment, et c'est vrai que les clubs
même
corses...
Gisolfi qui était à Lens.
Exactement, ouais, ouais, c'est ça, et c'est vrai que le football corse devrait s'en inspirer. Moi je suis évidemment très triste, hein, c'est pour le Sporting, hein, pour mon ami Claude Ferrandi, parce que je sais que c'est quelqu'un de compétent et je sais qu'il fait le maximum depuis, depuis plusieurs années justement pour remettre le Sporting Club de Bastia où est-ce qu'il mérite d'être, c'est-à-dire en Ligue 1. Voilà, aujourd'hui il y a une erreur de parcours, malheureusement c'était presque prévisible, hein, quand tu vois un petit peu l'effectif. Je pense qu'il ne faut pas tout remettre en cause, la Ligue 3 reste une ligue professionnelle, hein, me semble-t-il. Donc voilà, oui, parfois faire un pas en arrière pour mieux rebondir, pourquoi pas, en tout cas c'est ce que je leur souhaite, parce qu'encore une fois avec le potentiel public qu'ils ont, le potentiel public qu'ils ont, avec comme l'a dit Walid très justement, c'est une région qui vit le football vraiment, hein, et encore plus pour le Sporting Club de Bastia, en espérant revoir le Sporting Club de Bastia très rapidement en Ligue 2 et pourquoi pas en Ligue 1 dans les années à venir.
Messieurs, il y avait un match évidemment à distance pour Saint-Etienne qui a fait le job, hein, en gagnant 5-0 face à Amiens, mais ça n'a pas suffi parce que dans le même temps, eh bien, il y a cette victoire donc de Pau sur la pelouse de Bastia. On le rappelle, un 2-0. Pour ceux qui nous rejoignent sur RMC, le match a été interrompu en toute fin de match, mais le 2-0 est acté. On attend évidemment la décision ou une prise de parole de Rudy Bucquet. Le match pour l'instant est arrêté, il n'est pas fini, mais la victoire de toute façon, au pire des cas, sera accordée au joueur du Mans de façon tout à fait logique. Par rapport à Saint-Etienne, carton ce soir de 5-0 face à Amiens. Amiens qui était déjà relégué, on le rappelle, en national.
Scandaleux, Amiens. Ah, ils étaient plus. Hein.
Oui, oui.
Oh,
et puis,
la manière dont ils ont défendu.
La crise est réelle également à Amiens, on le rappelle.
Ouais.
Ça fait un moment que ça va très mal. Par rapport au match à venir avec ces barrages, il y a un Red Star Rodez. Est-ce que pour vous, il y a un favori
Saint-Etienne quand même, un point sur Saint-Etienne.
Ben oui, non, mais Saint-Etienne, ouais, ils joueront après face au Red Star ou à Rodez.
Oui, vendredi, mais globalement, c'est une déception, une grosse déception. Alors bien évidemment que le 5-0 ce soir, Saint-Etienne a fait le boulot, mais quand on regarde un petit peu sur la dynamique récente, il y a quand même eu des gros fails de la part de Saint-Etienne, notamment cette défaite contre Bastia 2-0 il y a deux semaines qui avait relancé le Bastia dans la course au maintien, même cette défaite contre Troyes où t'as été notamment en deuxième mi-temps dépassé, voilà, les matchs nuls à Grenoble, après les 5 victoires de Montagnier qui avait vraiment apporté une rupture par rapport à ce que faisait Orneland, ils sont retombés un peu dans leur travers, et les 3 défaites de suite leur ont fait très très mal. Et quand on voit le budget, quand on voit l'attaque qu'il y a côté Saint-Etienne avec les Stassins, avec les Boisquier, avec David Ashvili, avec Cardona, même avec Dufus qui a fait encore un super match avant sa sortie ce soir, je comprends pas comment Saint-Etienne n'est pas aujourd'hui en Ligue 1 à l'heure où on parle. Alors bien évidemment qu'il y a encore des manques structurels derrière, avec une paire de latéraux qui n'a pas été au niveau cette saison, mais c'est pour moi un énorme échec de ne pas voir Saint-Etienne remonter en tout cas directement avec ces deux premières places. À voir ce qui va se passer sur les barrages, ils sont au rattrapage avec ce match à la maison contre le Red Star ou contre Rodez, et derrière faudra voir contre qui tu tombes, contre Auxerre, contre Nice ou contre Le Havre, mais ouais, Saint-Etienne il y avait tout sur cette fin de saison pour aller chercher cette deuxième place, et quand tu vois les moyens mis à disposition par rapport à ce qu'a eu Le Mans, c'est quand même très décevant.
Ce qui est complètement dingue.
Je rappelle juste le contexte, Maxime, je rappelle le contexte. Effectivement, ce soir, il y avait aussi l'anniversaire de la finale 76. Tous les acteurs étaient présents. Il y avait le propriétaire étranger qui était présent. Il y avait évidemment le stade Geoffroy Guichard qui était à guichet fermé avec cet objectif de Ligue 1. C'est un échec aussi, comme le dit Walid. C'est quoi ? C'est ces 3 défaites de suite, la Bastia, 3 et Rodez, qui ont vraiment coupé cette dynamique.
Ce qui est surtout dingue, c'est que finalement, la dynamique, elle a été coupée en perdant à Bastia, qui était dernier de Ligue 2, je pense, à l'époque. Donc c'est vrai que Montagnier, il a fait énormément de bien quand il est arrivé au club. Peut-être qu'il aurait dû être nommé un peu plus tôt finalement, parce que c'est vrai que ces 5 victoires d'affilée, ça a fait énormément de bien au classement. Évidemment, quand tu regardes d'un point de vue budget, et Walid l'a très justement dit, je pense que aujourd'hui des clubs comme Saint-Etienne, ça devait refaire l'ascenseur, ça devait remonter en Ligue 1. Je parle souvent des stades, je parlais du stade de la MM Arena, enfin l'ancien stade du MM Arena, mais le Geoffroy Guichard, c'est un stade qui est exceptionnel. Il y avait tout qui était réuni aujourd'hui pour pouvoir justement faire un bon match et remonter en Ligue 1. Mais voilà, aujourd'hui le Mans a été plus fort sur l'entièreté de la saison. Je pense qu'il faut savoir tirer notre chapeau et en tout cas reconnaître à quel point le Mans FC a été efficace, a été surtout flamboyant. Et voilà, maintenant il reste les barrages. Saint-Etienne est sur une pente positive, c'est-à-dire que quand même ils ont eu les résultats avec eux. Donc à voir ce que ça va donner. Déjà, c'est jamais facile hein, les barrages, on sait jamais. Mais c'est vrai qu'en règle générale, tu sais que si jamais il devait accéder en tout cas les barrages de Ligue 1, en tout cas aller jusqu'au bout, c'est qu'en règle générale le club de Ligue 1 est dans une dynamique un petit peu négative, le club de Ligue 2 est dans une dynamique positive, donc on va voir ce que ça va donner.
Oui, mais c'est plus souvent le club de Ligue 1 qui reste
aussi
en Ligue 1.
Oui, mais sur les dernières années, c'est pas le cas. Il me semble parce que la saison dernière, Metz avait battu Reims avec le show Gauthier Hein. Il me semble que Saint-Etienne, quand il remonte en sortant Metz aussi et en tapant Rodez en barrage. Ouais. Et je crois même que OCR, l'année où Duprat, quand Saint-Etienne redescend 2 ans avant à Geoffroy Guichard, il gagne dans une séance de tir au but où ça part en vrille à Geoffroy Guichard, où c'est Auxerre de Furlan, il me semble,
exactement,
qui monte aussi.
Qui passe, exactement.
Sur la dynamique, la Ligue 2 arrive souvent à avoir un peu moins de pression que.
Il y a de ça, et puis encore une fois, tu restes sur une saison qui est en règle générale positive, c'est plutôt l'inverse quand tu descends de Ligue 1. Donc,
après, Saint-Etienne, je ne sais pas s'ils sont dans cet état d'esprit parce que ils ont quand même loupé le coche de la deuxième place. Oui. Et il faut rappeler quand même, Karine, que c'est 24 millions d'euros dépensés sur le mercato des transferts pour Saint-Etienne. En Ligue 1, t'as énormément de clubs qui n'ont pas dépensé cet argent-là.
On rappelle hein, effectivement donc que le Red Star Rodez, ça sera en barrage mardi et que le vainqueur de ce match jouera vendredi à Geoffroy Guichard face au Vert. Et justement,
Rodez qui reste sur une dynamique.
Ah oui, incroyable, Rodez.
Très bonne équipe avec le duo. Badé, comment il s'appelle,
celui que j'aime beaucoup aussi. Je crois que c'est même le meilleur record d'Europe. Ligue 1, Ligue 2.
Ils sont pleins de barres.
Du club de Rodez. On est avec Sébastien qui, justement, sort du stade. Il était présent ce soir à Geoffroy Guichard. Il était prêt à fêter, évidemment, la montée en Ligue 1. Bonsoir, Seb. Merci d'être avec nous sur RMC.
Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir.
Sébastien, salut. Dans quel état d'esprit tu es?
Je suis très frustré du match. Alors certes, c'est bien, on gagne 5-0, mais pour être honnête avec vous, à 3-0, on regardait plus le match de Bastia sur notre téléphone que le score du match au final. Donc très compliqué. Ce qui est dommage, c'est que on a une fête des années 76 avec l'Europe finale. On a un joli hommage et au final, on gagne 5-0, mais c'est frustrant. Je sais pas trop quoi dire.
Sébastien, est-ce que tu es confiant quand même par rapport au barrage? On l'a dit, hein, il y a ce Red Star Rodez, ça sera compliqué, Rodez est notamment en pleine bourre. Est-ce que tu y crois encore à la Ligue 1 ou tu te dis ces 3 défaites, c'est là où on a perdu la montée?
Alors, j'ai envie de vous dire, supporter des Verts du Touki, j'y croirais toute ma vie. Après, les barrages, ça me fait vraiment, vraiment peur. Parce que Saint-Té, on sait très bien comment ça peut passer, ça peut être tout ou rien. Après, voilà, pour en revenir au match, on perd des points bêtement toute la saison. Et on paye un peu les faux cassés à la fin, donc c'est triste, mais bon, on va y croire jusqu'au bout.
Merci Sébastien, et on te souhaite effectivement de retrouver le sourire, et on te souhaite un bon match vendredi. On n'est ni pour Saint-Etienne, ni pour une autre équipe, mais en tout cas, on te souhaite de passer un bon moment vendredi. Messieurs, dernières informations de Julien Pernici, les cages ont été enlevées, donc a priori, le match ne va pas reprendre, et il devrait y avoir une annonce de la part du délégué de la LFP dans quelques minutes. On vous rappelle en fait que le match entre Bastia et Pau a été arrêté, alors que Le Mans menait 2-0, une victoire synonyme de montée en Ligue 1 pour le club du Mans. On rappelle que 3 également a été champion déjà de Ligue 2, sacré il y a seulement quelques semaines, avec donc 2 anciens pensionnaires de Ligue 1 qui vont retrouver l'élite, c'est 3 et Le Mans, bravo à eux. Bastia malheureusement donc tombe en national, et c'est le cas également des Amiénois. Le tour des lives, il y a également donc du rugby ce soir pour le compte de la 23e journée de Top 14. Maxime Tilliette, Toulon qui est mené face à Toulouse.
Oui, on va entrer dans le dernier quart d'heure ici au Stade Vélodrome. Et les Toulonnais ont longtemps buté sur le rideau défensif toulousain ces derniers instants, sur la ligne des 5 mètres notamment, mais ils n'ont pas trouvé la faille sur leur temps fort et ce sont donc les Toulousains qui sont nettement devant. Désormais 17 points d'avance grâce à une nouvelle pénalité de Romain Tabac. 20 à 37 donc en faveur de Toulouse ici au Stade Vélodrome face à Toulon.
Merci beaucoup. Direction Londres, Léna Marjac, les championnats du monde de tennis de table entre la France et la Chine.
2-7 à 0 pour Alexis Lebrun dans ce troisième match. On le rappelle, il y a un partout entre la Chine et la France. Et Alexis Lebrun est à quelques points d'aller remporter une deuxième victoire pour la France. Il y avait notamment balle de 7 pour le Chinois, mais ça vient d'être sauvé. 13 partout donc dans cette troisième manche. C'est très serré entre Alexis Lebrun et Liang Jingkun, le numéro 21 mondial.
On vous rappelle donc que nous aurons dans quelques minutes, on l'espère, Patrick Videra, le coach du Mans, après cette victoire synonyme de montée en Ligue 1. On attend également Thierry Gomez, qui est le président du club depuis octobre 2016. On veut fêter avec eux cette montée en Ligue 1. Et on attend effectivement également que du côté de la LFP, on communique, parce que le match a été arrêté entre Bastia et Le Mans. Et le score n'a pas été encore entériné. On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Karine Gaye. 22h37, vous êtes sur RMC. On est ensemble jusqu'à minuit avec Walid Acherchour et Maxime Chano. Les résultats de Ligue 2 voient Le Mans être promu en Ligue 1. Deuxième montée consécutive. L'an dernier, ils étaient en National. L'an prochain, ils seront en Ligue 1. Bravo à eux. Victoire 2-0 face à Bastia. Le match a été interrompu dans les arrêts de jeu. On attend toujours que la LFP communique suite à ce match qui a été interrompu. On rappelle également que Saint-Etienne devra passer par les barrages. Ils ont gagné 5-0 face à Amiens, mais ça n'a pas suffi. Et Bastia et Amiens sont en National. Messieurs, l'information du jour, elle est tombée dans la nuit. On le rappelle, c'est un coup d'extincteur qui a valu à Aubameyang d'être écarté pour le match au Havre. Cette saison est complètement ubuesque côté marseillais. Il y a eu des sanctions à plusieurs reprises. On rappelle que les joueurs étaient aux mises au vert depuis lundi. Et donc, il y a des joueurs qui ont fait une petite fête. Visiblement, il y a des chambres qui ont été retournées, des lits qui ont été retournés, et puis il y a eu la chambre de Bob Tari qui a été un petit peu saccagée. On rappelle que Bob Tari, c'est un proche de Mehdi Benassia, c'est un peu l'œil de Moscou de la direction.
C'est le Plinker, et...
l'ancien coureur,
l'ancien athlète.
Plinker qui aujourd'hui fait office de représentant de la direction.
Voilà, à la base, il était là pour faciliter la vie des joueurs quand tu arrives au club, etc. Et aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve à dormir à la commanderie, parce que Mehdi Benassia par exemple, ou évidemment Stéphane Richard, etc., ou Abibé, ils ne dorment pas à la commanderie, ils dorment chez eux. Donc Bob Tari, lui,
de ce cadre-là.
Voilà, c'est l'autorité, c'est la direction, c'est lui qui représente et qui symbolise la direction. Et donc, les joueurs, et notamment Aubameyang, sont pris à la chambre de Bob Tari, derrière.
Avec l'instincteur
d'accord. Notamment. Okay. Donc, bon,
heureusement que ça ne s'est pas passé de la sorte avec Adil Rami à Coupe du Monde 2018, parce qu'il me semblait aussi qu'il avait...
Oui, mais là, c'était joyeux. C'est pas exactement la même chose. C'était pour fêter une qualification lors de la Coupe du Monde qui se jouait au Qatar. Et donc, derrière, il y a une réunion. Il y a notamment donc Stéphane Richard, le prochain président, on rappelle, de l'Olympique de Marseille, et Alban Juster, qui est le président par intérim, qui ont rencontré les joueurs. Et cette décision a été prise. Donc, sanction envers le Gabonais. Il ne fera pas le match demain face au Havre. Messieurs, est-ce que là, vraiment, c'est-à-dire que la Coupe est pleine comme jamais? Est-ce qu'il faut vraiment que cette saison s'arrête au plus vite? Parce que chaque jour, il y a une nouvelle affaire et finalement, ça ridiculise un petit peu plus l'OM chaque jour.
Tous les jours, on dit que l'OM a touché le fond et tous les jours, on creuse. Quoi. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette information? Moi, c'est un cauchemar. C'est vivement que tout ça se termine. Parce que si on m'avait dit en début de saison que Pierre-Emerick Aubameyang, joueur qui a connu les plus gros clubs, les plus gros vestiaires, termine en faisant une blague dans un timing où le FC Nantes a mis 3-0 à l'Olympique de Marseille il y a une semaine, à quelqu'un qui est le garant de l'institution, enfin de ce qu'il en reste à l'Olympique de Marseille, j'aurais pas cru une seconde. Comment on doit faire notre boulot aujourd'hui? Moi, je suis payé pour parler de football, pour parler de terrain. Là, on parle de, c'est la MJC en fait, de Blanc-Ménil, quoi. C'est-à-dire que là, on est et moi je reviens à ma colonie de vacances, et encore je sais même pas si on faisait ça, mais
pour toi c'est une blague ou c'est un message? Parce que ils s'en sont pris à quelqu'un qui représente la direction.
Mais faut arrêter. Mais ça, c'était, si ça t'est arrivé, alors que les résultats n'auraient
pas
sûr.
Le timing n'est pas propice.
Le timing est mauvais. Je suis d'accord avec toi, mais tu le sais très bien, Walid. Si c'était arrivé, j'ai pris l'exemple d'Adil Rami.
Mais ça n'a rien à voir. C'est un moment positif.
Laisse-moi terminer, Karine. C'est-à-dire que si les résultats avaient été bons, est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang aurait été sanctionné? Non. Donc, je pense qu'Aubameyang, il a quand même la tête sur les épaules. Il a pas voulu le faire de manière négative. Alors évidemment,
il l'a pas fait dans la chambre de Rouli, par exemple.
Qui sait? J'espère qu'il a, s'il faut, il l'a fait dans les couloirs. S'il est faux, ça se termine dans cette chambre.
On t'explique que les informations d'RMC, c'est la chambre de Bob Tari et les effets personnels de Bob Tari.
Ah, donc vraiment, il a visé Bob Tari. C'est ça que tu
veux? Oui, bah, c'est ça, oui.
C'est ça l'information. Et Aubameyang, il faut le dire aussi, a quand même présenté ses excuses à Bob Tari et à la direction. Oui. Bob Tari, il a évidemment fait écho de ce qui s'était passé. Et derrière, il y a eu donc
ces sanctions. Je trouve ça quand même dingue de s'excuser et de dire que c'est une blague. Alors, tu l'as dit, il y a plusieurs analyses, même si moi je suis pas compétent pour décrypter ça, mais ça fait un moment qu'on explique qu'il y a vraiment une fracture entre Mehdi Benatia, donc la direction, et les joueurs, et que les joueurs nous envoient quand même des signaux terribles. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passe sur le terrain et là, en fait, moi comment je le lis, c'est en gros vous commencez à nous rendre fous avec vos décisions et avec
vos sanctions,
vos sanctions, vous allez voir qu'on va devenir ingérable. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. C'est l'histoire de la blague ou pas la blague. Donc, en fait, on défie l'autorité chez les joueurs. Il y a une direction qui est autoritaire, même parfois à l'excès, parce qu'on voit qu'en fait, à partir du moment où ça ne marche pas ou que ça ne marche plus, est-ce qu'il faut s'enfoncer pour l'image du club à partir du moment où plus personne n'accepte ces décisions ou répond à cette fameuse autorité, quand on voit que Greenwood, tu dois passer par les avocats pour lui dire bonjour, qu'aujourd'hui, Aubameyang, on parle pas d'un petit de 20-21 ans, un mec qui a connu les grands clubs, les grands
c'est
coachs,
un cadre
fait ça, et derrière, quand on nous parle de blagues, moi je trouve l'explication ou l'argumentation de Aubameyang lunaire. Il n'y a pas de blague à faire quand tu es 7e. La blague, en fait, c'est le classement. La blague, c'est le classement de l'Olympique de Marseille. La blague, c'est les matchs d'Aubameyang sur les dernières semaines. La blague, c'est l'état d'esprit, c'est tout ce qui se passe au club. Le club est une blague en ce moment. Comment un mec aussi intelligent qu'Aubameyang, comment un mec aussi expérimenté qu'Aubameyang peut faire ça s'il fait même pas ça à un copain? Il fait ça à celui qu'on envoie, entre guillemets, parce que c'est qui Bob Tari aujourd'hui?
C'est un proche de Benatia.
Voilà, c'est un proche de Benatia. Et Bob Tari, c'est celui qui fait la garde, quoi. Là.
C'est
l'animateur, quoi. Aujourd'hui, c'est l'animateur de la MJC. Et donc, on lui envoie en disant, va voir ton gars Mehdi Benatia, etc. Regarde, nous, on fait ce qu'on veut. C'est ce qu'on nous envoie. C'est comme ça que moi, je le lis. Donc, en fait, où on va comme ça, il reste un match. C'est fou. Moi, sincèrement, jamais de la vie, j'aurais pensé qu'on en arrive là du côté de l'Olympique de Marseille.
C'est vrai qu'on touche le fond là. C'est vrai que si, en tout cas, c'est vu de cette manière-là. Moi, j'ai envie de la mettre sur le compte de la blague parce que tu l'as très justement dit. Enfin, Aubameyang, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui est censé. Bon, même si c'est vrai que sur le terrain, on a compris qu'il a lâché depuis quelques semaines quand même.
Mais de là, c'est pas normal.
D'ailleurs, ça c'est le sportif encore. Ça c'est encore une autre histoire. Hein. Je pense qu'on l'a vu sur le match contre Nantes. Mais alors de là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir se venger entre guillemets de Mehdi Benatia, qu'asperger Bob Tari d'un extincteur? C'est pour ça que moi je mets ça sur le compte de la blague en me disant que c'est une blague qui a été mal perçue.
Karine le dit, selon ses informations, il y a eu des excuses derrière pour Mehdi Benatia ou pour la direction, pour Bob Tari. En fait,
Aubameyang aurait présenté ses excuses à Bob Tari et à la direction.
Tu mets une claque, tu t'excuses. C'est quoi tu fais? C'est quoi en fait le concept du truc?
Il n'y a pas d'autre moyen.
Qui est gagnant dans l'histoire?
Il n'y a pas d'autre moyen que de te venger entre guillemets de Mehdi Benatia. Enfin, j'ai du mal à croire, en tout cas, un mec aussi intelligent et autant d'expérience qu'Aubameyang de faire quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me dépasse. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire.
Parce que c'est une blague qui a mal tourné.
C'est ce qui s'est passé.
RMC l'a sorti. L'équipe l'a sorti. C'est Foot Mercato qui l'avait sorti en premier.
Je l'entends. Mais je pense qu'il y avait un meilleur moyen, en tout cas, de pouvoir passer un message de la part d'Aubameyang.
Non, mais la fracture, elle est énorme.
Ils font plus semblant, quoi. Il n'y a plus, encore une fois, aux yeux de tous. En plus, ça sort à une vitesse énorme.
C'est-à-dire que c'est quand même sorti à minuit.
Voilà.
Et l'incident, la blague, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je comprends pas comment, effectivement, on peut appeler ça une blague. Était arrivé juste un petit peu
tous
avant.
Tous les médias sont unanimes, tous les médias sortent ça presque en même temps. C'est quand même fou, c'est-à-dire que on savait très bien que cet effectif-là ne pouvait plus se piffrer, qu'il y avait des clans, plein de clans, qu'il y avait des joueurs qui aujourd'hui, ça fait un moment moi que je le dis, des joueurs sont beaucoup plus préoccupés à ce qui va se passer à la Coupe du Monde ou l'année prochaine dans un autre club, qu'il y a eu des péripéties, on va pas se répéter encore une fois, entre le départ de Zerbi, le départ de Longoria, la démission de Mehdi Benatia, le retour de Mehdi Benatia qui arrive avec un nouveau coach derrière, le fait que Macourt acte le départ de Benatia à la fin de la saison, plus les prises de parole de Mehdi Benatia après Lorient, l'histoire du Marbella 1, Marbella 2 derrière, là on les enferme à la commanderie, plus la communication de Medina qui envoie une balle perdue à Benjamin Pavard et à Mersan Palmieri. En fait, il y a plus Greenwood qui entre son comportement en dehors du terrain, sur le terrain, est infect par rapport à ce qu'il représente en termes de leader. Voilà, aujourd'hui, c'est avec un Bay qui dans sa communication, tu sens complètement perdu, qu'il est pas en phase avec les décisions d'en haut. Sincèrement, il y a plus de mots. Il faut vite que ça se termine. Ouais. Voilà, on sait. Bon, pour moi, pour demain, je suis très inquiet, Karine. Demain, t'arrives au Havre face à une équipe qui va vouloir aller chercher son maintien ou son point du maintien avec des dogues argentins au milieu de terrain. Les mecs, ils vont à 10 000, ils vont faire le match de leur vie. Dernier match à Océane, peut-être dernier match de Mathieu Bodmer ou de Didier Digard avec une fin de cycle peut-être au Havre. Il y a un truc, il y a une fête qui peut se faire du côté du Havre demain. Et moi, sincèrement, l'Olympique de Marseille, quand tu vois tout ce qui se dit et tout ce qu'on lit, mais je suis très, très inquiet. Moi.
Mais
très
on parlait
inquiet.
Justement des vents contraires. On parlait là des destins, évidemment, qui sont opposés du côté du Mans qui va monter en Ligue 1, Bastia qui va monter en Ligue 3. Le match de demain, c'est ça aussi. On a appris cette semaine que Didier Digard a offert un moment de convivialité à ses joueurs.
Payé.
Voilà, parce que le Havre n'a pas une thune. Donc ouais. En fait, ils n'ont pas pu leur payer la mise au vert. Et ouais. Donc c'est Didier Digard, sur ses propres deniers, qui a décidé d'offrir ce moment-là à ses joueurs.
Ils n'avaient pas d'argent pour les 14 euros du billard et du bowling.
Du Hilton.
Du Hilton, exactement. Voilà. Donc vraiment, il n'y a plus rien. Donc Didier l'a dit, c'est pour moi.
C'est l'entraîneur qui paye parce qu'il a une relation magnifique avec ses joueurs, parce qu'ils se sont dépouillés toute la saison. Oui, mais excuse-moi.
C'est sûrement pas Abi Bay qui aurait fait ça avec ses joueurs.
Mais non, mais c'est. Enfin, de toute façon, les joueurs, ils n'ont pas envie de rester avec Abi Bay, ils n'ont pas envie de rester avec Mehdi Benatia, ils veulent rester avec personne.
Plus personne ne peut se voir.
Plus personne ne peut se voir. À l'Olympique de Marseille, et ça, c'est un vrai problème. De toute façon, c'est une saison catastrophique. Tu vois bien, c'est une politique sportive qui est complètement défaillante. Walid a nommé tous les actes, mais il y a quoi, c'est une tragédie en 12 actes. Hein. Chaque mois, il y avait sa nouvelle histoire. Et finalement, j'en viens même presque à regretter De Zerbi. Hein. Parce que quand De Zerbi part, il me semble que l'Olympique de Marseille est second. Enfin, en tout cas, ils sont seconds jusqu'à la Super Coupe. Ils sont encore en Coupe de France, justement, avec un Paris Saint-Germain éliminé. C'est vrai que moi, j'étais le premier à critiquer De Zerbi, à pas forcément comprendre sa tactique et en prenant position sur le fait que pour moi, il compliquait un peu trop le football. D'ailleurs, avec ce qu'il est en train de faire à Tottenham, il est vraiment en train de me faire changer d'avis. Bon, ça, c'est une aparté. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Abi Bey, avec ce qui s'est passé avec Benatia, avec les prises de position, la communication chaotique, là, c'est vraiment vite que la saison de l'Olympique de Marseille se termine et surtout qu'ils repartent sur un nouveau cycle. Après, il y a une réalité aussi, c'est que tu repars sur un nouveau cycle, à quelle place, déjà pour commencer. Et puis, si tu changes pas l'institution en règle générale, c'est-à-dire les gens, les dirigeants, ça risque d'être compliqué.
Et l'institution, encore une fois, bon, c'est maintenant le mot qui est galvaudé. C'est qu'à partir du moment où on a eu une direction sportive à l'image de Mehdi Benatia qui était dans l'exigence, voire la surexigence, et que ça n'a pas pris cette année, et parce que tu parles de Zerbi, mais Zerbi s'en va parce qu'il estime avoir été trahi par son groupe à plusieurs reprises. Et qui lui aussi était dans une gestion émotionnelle et dans un management très toxique.
Il a affiché des joueurs, il les a aimés, plus aimés.
Avec Murillo notamment, etc. Donc en fait, le point de départ est là. C'est-à-dire que moi j'ai déjà répété, c'est l'œuf ou la poule, l'Olympique de Marseille. C'est les joueurs, le coach, le directeur sportif. En fait, qui sont les responsables?
Pour moi, les résultats sportifs, c'est la conséquence justement de la politique sportive. C'est-à-dire qu'on commence avec les transferts rentrants, on commence aussi avec le Carabio. On n'en a pas assez parlé du Carabio, même si je sais que ça remonte. Si t'avais Adrien Rabiot aujourd'hui, je pense que la saison de l'Olympique de Marseille est différente.
Mais il n'aurait pas tout changé. Mais si on va continuer de parler de l'OM, il y a Julien Pernicci qui est avec nous, vous le savez, c'est notre correspondant à Bastia. Le match a été interrompu entre Bastia et Le Mans qui menait 2-0. Quelles sont les dernières informations que tu peux nous communiquer, Julien ?
Les dernières informations, c'est que pour l'instant, il n'y a toujours aucune décision définitive qui a été prise, Karine, parce que les débats continuent en saisie de crise. Parce que on réfléchissait tous, il y a un petit souci, c'est que si la commission des compétitions, le dimanche, c'est le mercredi, et que les premiers barrages, c'est mardi. Donc, il faudrait que les résultats soient entérinés, le résultat de Bastia-Le Mans soit entériné. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore beaucoup de discussions. Jusqu'à une dizaine de minutes, il y a eu des tirs de fumigène et de pétards sur le parking de la part de certains supporters Bastia. Mais pour le moment, rien ne bouge et on attend. On attend pour tout te dire qu'arrive.
Merci beaucoup. On reste évidemment aux nouvelles. On rappelle donc que le match a été arrêté et qu'il n'y a aucune décision pour l'instant et qu'on attend aussi surtout une prise de parole du côté de la LFP. Messieurs, on parlait de Marseille. On est avec Laurent, supporter marseillais qui nous appelle au 32-16 sur RMC. Bonsoir Laurent.
Bonsoir tout le monde.
C'est Laurent.
Laurent, comment tu as vécu cet énième épisode avec donc les joueurs qui saccagent la chambre de Bob Tari alors qu'ils étaient aux mises au vert?
Ouais, on a l'habitude, on va dire, cette année c'est spécifique et c'est ce que je dis au standard. Par contre, il y a un truc que je veux pas entendre cette année, que ce soit de la part des médias, des dirigeants ou quoi que ce soit, c'est parler du contexte marseillais, parler de la pression des supporters. Cette année, on n'a pas bougé une oreille.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a eu deux banderoles.
Ça avait été relativement calme.
Il y a eu deux banderoles, donc je veux pas entendre parler de contexte marseillais parce que ça, c'est pas vrai. Alors que maintenant qu'on les emmène à Marbella, qu'on les emmène à Mykonos, qu'on les emmène où ils veulent, ils peuvent y rester tous autant qu'ils sont. Parce que c'est les premiers à dire, moi je signe ici parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a de l'exigence, parce que c'est un club historique. Et dès que, entre guillemets, ça se fait dessus comme certains joueurs, il n'y a plus personne et ça bégaye. Ouais, on veut voir nos familles. Ouais, on nous prive de nos familles. Mais nous, on se prive de quoi pour les suivre? Enfin, je vais même pas finir, mais on se prive de tout. Ça nous coûte une fortune. Et eux, ils pleurent parce que pendant 48 heures, ils voient pas leur femme, ils voient pas leur enfant. Et j'en veux à tout le monde, hein.
Mais on en revient toujours à la même chose, c'est que j'ai le sentiment que t'as aucun joueur qui s'identifie au club. Je l'avais dit un peu plus tôt, moi, dans la saison. Alors déjà que l'effectif a été mal construit, c'est une première chose. Mais c'est aussi le message qu'a envoyé Mehdi Benatia, et je termine mon analyse par rapport à Rabiot. T'as quasiment le meilleur joueur l'année dernière qui se fait un peu dégager, excuse-moi du terme, un peu comme un malpropre. Quel message t'envoie finalement aux joueurs qui sont restés dans l'effectif? En fait, c'est ça la situation. Non, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis un Hochberg, je suis un Aubameyang, et je sais qu'à tout moment, je peux me faire dégager parce qu'en fait, la politique de transfert de Mehdi Benatia et de Longoria, malheureusement, elle a été cadrée sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils savaient très bien faire, c'est-à-dire la politique d'agent. D'accord. Mais tu ne gères pas un club comme tu gères une agence de joueurs, et c'est ce qui s'est passé avec Rabiot. Donc, tu parles de joueurs qui n'ont absolument rien à faire du club et du blason, et je l'ai dit depuis le début. On parlait des salaires qu'ils ont donnés aux joueurs, c'est encore autre chose. Moi, aujourd'hui, je vois aucun joueur de l'Olympique de Marseille, si ce n'est Medina, parce que la manière dont il s'est positionné, qui a envie de rester
Medina,
sur la...
Enfin, Medina, t'as vu ses prestations.
C'est différent. Je te parle vraiment dans l'identité. J'ai le sentiment que Medina, c'est le seul joueur qui est en mesure, en tout cas, qui a envie de rester au club. Et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle il l'a envoyé parler au micro. Et t'as plein de joueurs qui sont sous contrat et qui seront plus à l'Olympique de Marseille l'année prochaine. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, les résultats, pour moi, c'est les conséquences négatives de la politique sportive qu'a mis en place Mehdi Benatia, Longoria. Et en fait, on en est là, on est dans une situation où t'as maintenant aucun joueur qui s'identifie au club, et c'est aussi la raison pour laquelle on se retrouve avec des attitudes comme ça sur le terrain et en dehors du terrain, parce que c'est catastrophique.
Même si c'est pas normal, même s'il faut
messieurs,
dire,
on va continuer à en parler. Julien Pernici, une information importante, messieurs. Julien, une information vient de tomber concernant donc le match entre Bastia et Le Mans.
Oui, information importante, puisque le match est définitivement arrêté entre les deux équipes. C'est ce que vient de déclarer l'arbitre de la rencontre, Rudy Buquet. Et comme d'habitude, lorsqu'il y a une annonce d'arrêt de la rencontre, l'arbitre ne répond pas aux questions. Ça veut dire qu'il n'a pas répondu à notre question afin de savoir si le résultat est entériné. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que Le Mans est en Ligue 1. C'est ça le souci.
C'est dramatique.
On ne peut pas dire que Le Mans est en Ligue 1.
C'est dramatique.
C'est incroyable.
C'est dramatique.
C'est-à-dire qu'il y a des barrages mardi. On ne sait pas encore qui va jouer.
Ça va être statué avant, rassure-moi.
Non,
mais les gars, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, là. Bastia est en Ligue 3, Le Mans est en Ligue 2, est en Ligue 1, on va, avançons, quoi. Avançons, passons à autre chose.
Oui, c'est lunaire, on est d'accord, c'est lunaire.
Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous, et si tu as d'autres informations tu nous diras. Donc le match ne reprendra pas, il est définitivement arrêté.
Surtout Karine,
arrêté.
Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? Les responsables c'est Bastia, vu que les incidents viennent de Bastia. Le Mans a gagné 2-0 à l'extérieur. Oh, il y a quoi? En fait, il y a quoi à regarder, il y a quoi à voir là? Il y a personne qui peut appeler Rudy Buquet au téléphone en disant hey, mon copain, tu vas libérer tout le monde et puis tu vas dire au monde d'aller faire la fête là, je comprends pas.
Est-ce que c'est même Rudy Buquet qui va prendre la décision?
Non mais les instances à un moment donné, il y a pas quelque chose, il y a pas les mails ne passent pas. Ouais, samedi 23h, les mails ne passent pas.
Ils sont plus là.
Non, mais c'est une folie quand même.
C'est quand même dingue, oui. C'est pas compliqué de dire voilà, le match est arrêté et le score est entériné. Merci
beaucoup. On parle pas non plus de.
On n'est pas en division 3 dans le Luberon. Là, on est quand même.
C'est beau le Luberon.
Très, très beau le Luberon. Là, on est quand même. C'est la Ligue 2. La Ligue 2, soir de dernière journée, il n'y a pas un mec dispo pour te dire que, en fait, au vu de. Au vu de l'équation que nous montre le Bastia, le Mans gagne son match et va en Ligue 1.
Ça gâche la fête pour le Mans, ouais. C'est en effet.
On vous rappelle, hein, Laurent, supporter marseillais, toujours avec nous. Laurent, tu restes avec nous. On va continuer évidemment à parler de l'OM, mais un petit tour justement à Marseille parce qu'il y avait du rugby ce soir. Toulon-Toulouse, c'est terminé, Maxime Tilliette.
Oui, et Toulouse s'impose avec autorité, 51-27, succès bonifié pour le Stade toulousain grâce à deux essais dans les cinq dernières minutes. Et comme la saison passée. Bien, Toulouse colle plus de 50 points au RCT ici au Vélodrome. Toulon dit quasiment adieu aux phases finales et le leader toulousain se rassure après son faux pas à la maison lors de la dernière journée contre Clermont.
Merci beaucoup Maxime et on te retrouve demain pour le match entre Monaco et Lille. Belle soirée à toi. Un mot également de tennis de table. On est en Angleterre avec toi pour les mondiaux par équipe, Léna Marjac.
Oui, et ça se complique pour nos Français puisque Alexis Lebrun vient malheureusement de perdre à la belle 3-7-2 face à Liang Jingkun et donc la Chine reprend les devants et mène 2-1 dans cette demi-finale. Tout repose maintenant sur Félix Lebrun. S'il arrive à battre pour la première fois de sa carrière le numéro 1 mondial Wang Chuxin, il pourrait remettre la France à égalité face à la Chine dans cette demi-finale. Mais pour l'instant, ce sont les Asiatiques, les Chinois qui sont plus forts. 2-1 pour la Chine dans cette demi-finale face à la France.
On continue de parler de Marseille juste après la pause. On est avec Laurent, supporter marseillais, suite à l'éviction d'Aubameyang pour le déplacement au Havre. On parlera également du futur directeur sportif. Grégory Lorenzi pourrait venir à l'OM alors qu'il était annoncé du côté de Nice. On parlera également de Lens qui doit se diriger vers la Ligue des Champions et penser à son effectif pour la saison prochaine. Et également du Classico. Est-ce que ce Classico vous passionne encore alors que le titre est déjà joué et que certains des meilleurs joueurs seront absents? À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Foot.